Le grand face-à-face est en direct et jusqu'à 13h. Midi 5, bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h avec, comme chaque semaine, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein et puis le débat du samedi. Et si nous vivions dans la démocratie des crédules? C'est le titre d'un livre passionnant que publiait notre invité il y a quelques années. Comment expliquer la place et l'importance des théories du complot, du conspirationnisme dans nos sociétés? Question qu'on ne peut s'empêcher de se poser à la fin d'une semaine où l'espoir d'un vaccin contre le Covid commençait à se préciser et où se propageait parallèlement un autre virus, le virus du complot. Des théories parfois délirantes qui se diffusent sur les réseaux où l'on croise pêle-mêle Bill Gates, la 5G, les Big Pharma. Autre signe, le succès incroyable du documentaire Hold Up, documentaire qui cartonne sur les plateformes depuis sa sortie mercredi. Un film de près de 3 heures qui prétend dénoncer l'alliance des politiques, des médias et des pouvoirs économiques qui profiteraient tous de la crise du coronavirus pour nous asservir. Alors comment en est-on arrivé là? Comment lutter contre ces phénomènes de croyance collective? Rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec l'un des meilleurs spécialistes de ces questions. Il est sociologue, professeur à l'université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Le sociologue Gérald Bronner sera l'invité du grand face-à-face, mais tout de suite le duel.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein, que je suis ravi de vous retrouver. Bonjour les amis.
Bonjour.
On va démarrer tout de suite avec la question du confinement, la question de Noël, et une intervention qui était très attendue, c'était celle du Premier ministre Jean Castex, jeudi, en fin de journée.
Nous avons donc décidé ce matin de maintenir inchangé, au moins pour les 15 prochains jours, les règles du confinement. Les commerces fermés au titre du confinement le resteront donc encore pour 15 jours supplémentaires. Cette décision, je la prends en responsabilité. J'espère que nous pourrons passer des fêtes de fin d'année dans la sérénité.
Dans la sérénité, mais c'est peut-être l'accablement qui a suivi l'annonce du Premier ministre. Je ne vais pas vous demander ce que vous avez ressenti, Natacha et Gilles, en écoutant Jean Castex, mais quelle est la question que vous vous êtes posée? Comment sauver Noël? Est-ce que c'était ça, la première chose qui vous est venue à l'esprit, Natacha?
Ce qui m'est venu à l'esprit, c'est comment sauver tous les petits commerces, tous les restaurants, tous les bars qui vont fermer. Alors justement, d'ailleurs, il faut distinguer parce que ça pose des problèmes différents, puisqu'on commence quand même à avoir enfin quelques études à peu près fiables apparemment sur les endroits où on se contamine, ce qui est quand même la base pour mener une politique qui ne soit pas une politique à l'aveuglette. Or, autant il semble qu'on se contamine en effet dans certains restaurants, certains bars, c'est-à-dire que il y a des professionnels qui ont pris des mesures vraiment drastiques, qui respectaient bien les choses, d'autres qui ont été plus négligents et c'est à déplorer. Mais en tout cas, autant là, on peut comprendre la fermeture, autant les petits commerces, ce n'est pas là qu'on se contamine. Et cette façon de prolonger une mesure dont on sait qu'elle ne sert à rien ne peut que créer à la fois du désespoir, de la colère et de la défiance. Donc c'est quelque chose que je ne comprends pas, d'autant plus que l'argument des commerçants qui consiste à dire « mais vous voulez donc que les gens s'entassent en faisant tous leurs courses de Noël au même moment » me semble assez justifié. On avait déjà évoqué ici la question de d'une jauge en fonction du nombre de mètres carrés, qui me oui. semble à peu près raisonnable. Je pense qu'il y a donc des moyens de ne pas s'enferrer dans une politique inutile, et au contraire il y aurait moyen d'envoyer des messages qui soient des messages d'espoir et de rationalité.
Gilles.
Oui, en entendant le Premier ministre, je me suis dit, à partir de désormais, tout continue comme dorénavant.
Explication.
Voilà. Explication, tout le monde a bien compris, c'est en gros, à ce stade, rien n'est changé. Et autour de ces questions sur Noël, à la fois les questions des commerçants et puis la question des Français, on voit une situation qui commence à peser. Avec les couvre-feux là où ils ont eu lieu, puis le deuxième confinement, et je crois beaucoup un besoin urgent de perspective. Il y a eu le vaccin, la perspective du vaccin, mais qui est une perspective qui est encore hypothétique et lointaine. Et
avec puis, l'annonce il y a des laboratoires Pfizer et BioNTech.
Voilà. Et puis, il y a la perspective de Noël sur laquelle se cristallisent les débats, avec cette difficulté qu'on est dans un moment dans lequel à la fois le nombre de personnes hospitalisées est supérieur au pic du premier confinement, et en même temps, je voyais sur mon application Tous Unis contre le Covid...
Que vous avez téléchargé.
Que j'ai téléchargé, comme près de 9 millions de personnes maintenant, que le R0, c'est-à-dire la diffusion du virus est redescendu à 0,81, donc à un niveau qui commence à être encourageant. Donc on est dans ce moment un peu d'hésitation, mais où cette pression s'explique de la part des commerçants, parce que là on est vraiment sur des questions de jours, où en dépit des mesures de soutien importantes que le gouvernement leur a apportées, pour beaucoup d'entre eux, ils ont à la fois une situation économique qui est très dégradée et des semaines qui sont des semaines décisives dans lesquelles ils réalisent une partie considérable de leur chiffre d'affaires. Oui. Et puis, pour les Français, c'est ce qui est sur un horizon qui est un peu plus lointain. Je crois que c'est moins la fête religieuse dans un pays extraordinairement sécularisé comme la France, dans lequel ce qui nous singularise est plutôt le nombre d'athées par rapport aux autres pays.
Et il faut rappeler que tous les offices sont suspendus depuis le reconfinement, à part les enterrements.
Bien sûr. Donc il y a cette question-là qui va être posée. On a même d'ailleurs vu des prières de rue de la part d'un certain nombre de catholiques sur les réseaux sociaux.
Notamment devant l'église Saint-Sulpice à Paris.
Voilà, mais c'est... disons, la fête sécularisée, la fête de famille qui est en jeu. Peut-être les Français sont-ils en réalité plus raisonnables qu'on ne le croit, puisque lorsqu'on les interroge, les trois quarts d'entre eux disent déjà qu'ils fêteront de Noël, mais avec moins de personnes que d'habitude.
Natacha, est-ce que c'est une réunion essentielle pour tous les Français, et donc quelque chose qui doit être hors catégorie, une idée qui doit être le caractère essentiel de Noël, quelque chose dont doit prendre en compte le gouvernement, j'y arrive.
C'est évidemment un moment collectif extrêmement important, et Gilles le disait tout à fait justement, Noël n'a plus rien d'une fête chrétienne. Enfin, mis à part pour les chrétiens, pour qui c'est une fête
oui,
absolument essentielle, mais dans la société française, Noël c'est autre chose.
Mais c'est
Noël
une fête familiale
est un moment, voilà, de réunion familiale extrêmement important. C'est parfois le seul moment de l'année où les familles se réunissent véritablement pour certaines, et je pense que c'est un moment qui raconte ce que c'est que l'humanité, c'est-à-dire que l'humanité, ce sont des rapports sociaux, des liens qui sont absolument nécessaires au bon équilibre et à la vie. Alors ça ne signifie pas que je suis en train de vous dire il faut faire comme si de rien n'était et que tout le monde va fêter Noël comme d'habitude. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir conscience qu'on ne peut pas dire, par exemple, à des personnes âgées vous savez que vous avez un certain âge, vous savez que c'est peut-être un de vos derniers Noëls parce que vous avez l'âge que vous avez, eh bien vous allez le passer tout seul parce que on veut vous préserver. Je pense que c'est un discours qui est inaudible, c'est un discours qui en plus est absurde. C'est-à-dire que c'est toute la complexité de cette crise, il va falloir se poser la question de ce qu'est la vie. Est-ce qu'on parle simplement de la prolongation de la vie biologique, ou est-ce que nous ne pouvons pas commencer à réfléchir à ce qu'est la vie? Et je pense que une vie digne, eh bien, c'est à chaque individu de décider comment elle est digne.
Mais là, en l'occurrence, c'est le gouvernement qui décide ce que sont les réunions essentielles, Natacha. Quand Jean Castex indiquait que les grands rassemblements à plusieurs dizaines de personnes seront interdits fin décembre, il visait clairement Noël.
Oui, mais on peut comprendre qu'on essaye d'éviter le jour de l'an. Oui, voilà. Je comprends parfaitement qu'on évite de faire les grosses fêtes du jour de l'an. Ça me semble, pour le coup, acceptable. En revanche, il va falloir réfléchir à ce qu'on impose à des individus, au risque psychologique, à la détresse que cela peut causer. Et il ne faudrait pas que la volonté absolue d'éviter des morts entraîne une souffrance psychique collective qui sera extrêmement dommageable. Je l'avais déjà dit ici, je pense que l'arbitrage entre court terme et long terme se fait un peu trop souvent du côté du court terme. Parce que, évidemment, les souffrances à long terme, ça ne se mesure pas, ça ne se voit pas, ça ne fait pas les unes des journaux.
Encore une réflexion, Gilles.
Oui, Natacha évoque à l'instant l'arbitrage entre le court terme et le moyen terme. Je crois qu'il y a un autre arbitrage qui est un arbitrage presque d'ordre éthique et un dilemme auquel est confronté le gouvernement et qu'il est intéressant de souligner. Vous avez, je parle sous votre contrôle, Ali, parce que pour le coup, vous êtes beaucoup plus spécialiste des questions de philosophie que moi.
Je pensais que vous alliez parler de la fête et de la dinde, dont j'étais aussi un grand spécialiste. Mais j'admets.
Vous admettez. Je parle sous votre contrôle, donc les philosophes classiques distinguaient plusieurs niveaux d'éthique. On peut prendre une décision en fonction de son propre bien. C'est l'éthique de la première personne, je. On peut prendre une décision en fonction d'une catégorie particulière. Toi, c'est l'éthique de la deuxième personne. Et puis, on peut prendre une décision en fonction d'un tiers en général. De la communauté dans son ensemble, c'est l'éthique de la troisième personne, il. Et là, il y a une confrontation entre l'éthique de la deuxième personne, toi, cette telle catégorie, les commerçants, et l'éthique de la troisième personne, la communauté dans son ensemble, c'est la question de santé publique. Et le gouvernement est confronté à ce dilemme-là. Ce que l'on demande à un gouvernement, c'est plutôt d'être sur une éthique de la troisième personne et donc de prendre des décisions dans l'intérêt général. La question que posait Natacha au tout début, c'est est-ce que, en l'espèce, il y a une manière de concilier les deux?
Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est un dilemme auquel est confronté l'exécutif ou est-ce que le gouvernement ne s'est pas piégé, Natacha, pour éviter encore, de faire rimer célébration avec contamination?
Non, mais pour répondre à ce que vient de dire Gilles à l'instant, encore faut-il que réellement les décisions que prend ce gouvernement soient permettent de respecter l'éthique de la troisième personne dont vous parlez. Mais si les décisions sont prises parce qu'il faut bien prendre des décisions et qu'on n'a pas osé ou qu'on n'ose toujours pas prendre les bonnes et que du coup on va compenser en donnant l'impression qu'on agit, je m'explique. Rendre le télétravail absolument obligatoire un peu plus tôt que ce qu'on a fait aurait été sans doute beaucoup plus utile au vu du type de contamination, des lieux où l'on se contamine, que de fermer des petits commerces où l'on ne se contamine pas. Mais il a bien fallu fermer des petits commerces pour dire qu'on agissait. Et du coup, comme il fallait rétablir l'équité avec la grande distribution, on a fermé aussi des rayons de grande distribution. Il y a là quelque chose qui relève d'une forme de politique qui est la politique de la communication. Et c'est cela qui pose problème. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler d'éthique, on est en train de parler d'efficacité et de réalité de l'action. Alors, je pense que évidemment, on commence à avoir suffisamment de recul pour savoir exactement comment se passent les contaminations. On en a manqué pendant très longtemps de ce genre d'études, et là aussi, c'est assez dommage. Il serait intéressant, par exemple, de savoir quelles sont les professions où on a le plus que de risques de se contaminer. Là aussi, je trouve que avoir des chiffres plus précis pourrait être intéressant. Bref, la connaissance est intéressante et ça permet de ne pas prendre des décisions arbitraires.
Et notamment, par exemple, si de l'autre côté, celui des citoyens vacanciers, comment organiser ces vacances de Noël, et c'est un casse-tête qui est très très difficile à résoudre. Le duel continue.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Demain, vous aurez 152 000, 105. Et vérité, c'est que je pensais que j'avais au moins un mois et demi, deux mois devant moi. Ça s'est fait plus vite. Alors, il faut bien comprendre que c'est pas une affaire, si vous voulez, de montrer ses muscles, j'ai vu ça, certains me disaient pourquoi pas un million, pourquoi pas? Et ça dément ceux qui disaient c'est pas le bon moment. C'est que le bon moment, c'est celui qui porte ses fruits. Eh bien, le fruit est là.
Jean-Luc Mélenchon, invité de BFM jeudi soir. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, qui comptait donc jeudi en fin de journée plus de 150 000 parrainages. Le seuil qu'il s'était fixé pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2022. Ce sera donc sa troisième candidature. Troisième candidature de Jean-Luc Mélenchon. Analyse du premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Emmanuel Macron a dû s'ouvrir une bonne bouteille en entendant cette annonce et il a fustigé l'ambition égoïste de Jean-Luc Mélenchon. Vous comprenez cette réflexion d'Olivier Faure, Gilles?
Alors, je la comprends. Je commence par le premier point qui est cette innovation qui était une candidature conditionnelle de Jean-Luc Mélenchon. Je suis candidat si et seulement si je recueille 150 000 signataires.
Elles le sont toujours? puisqu'avant il y avait les parrainages, enfin il y a toujours d'ailleurs les 500 parrainages à réunir.
Donc au risque de vous surprendre, je pense que c'est une bonne idée, ou en tout cas que c'est presque une bonne idée. C'est-à-dire que dès lors qu'on élit le président au suffrage universel direct, chacun, je pense, convient qu'il y a besoin d'avoir des filtres pour savoir à quelles conditions on peut se présenter. Ce que, non pas la Constitution, mais la loi organique prévoit, c'est qu'il y a un parrainage d'élus, et d'année en année, on a durci ce filtre, puisqu'on a besoin de davantage d'élus qu'au début, et que ces signatures, ces parrainages, sont des parrainages publics. Ma conviction, et c'est pas seulement ma conviction, c'est que ce système n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant parce que vous pouvez avoir des candidatures qui sont présentées alors qu'elles sont peu représentatives, et vous pouvez, à l'inverse, avoir des candidatures qui sont très représentatives et qui sont écartées. D'ailleurs, il n'est pas certain que Jean-Luc Mélenchon réussisse à réunir ces parrainages. Et donc, la question est de savoir quel doit être ce filtre. Ça peut être, c'est la thèse d'un papier qu'on a publié cette semaine d'un professeur de droit qui s'appelle Jean-Philippe Derosier, qui a dit « ce filtre, ce doit être les partis politiques ». Ce sont la mission des partis, c'est de sélectionner les candidats. La mission des citoyens, c'est de désigner leurs élus. Mmh. Moi, ma conviction, c'est que la proposition de Jean-Luc Mélenchon est une bonne idée, c'est-à-dire que ce doit être les citoyens. Pourquoi presque une bonne idée? Parce que je pense que ça doit être non pas en complément, mais en substitut du parrainage des élus, sinon on revient au problème que j'évoquais précédemment, et surtout parce que ça doit être mieux contrôlé. Aujourd'hui, n'importe qui pouvait voter autant de fois qu'il le souhaitait pour parrainer cette candidature de Jean-Luc Mélenchon, et sans doute que ça doit être plus représentatif.
150 Jean-Luc Mélenchon précisait que c'était justement contrôlé, qu'on pouvait effectivement prendre des adresses fictives, les noms les plus dingues, et parrainer sa candidature, mais que derrière, il y avait des modérateurs, des filtres, des systèmes qui permettaient de voir qui était derrière ces signatures.
Vous aviez juste un mail de confirmation. C'est totalement insuffisant, c'est pas seulement la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon, c'est que le système n'est pas aujourd'hui organisé, et il n'est pas non plus, j'en termine par là, suffisamment représentatif. 150 000 citoyens, c'était le seuil qui avait fixé la commission de la rénovation de la vie politique, qui était pilotée par Lionel Jospin il y a presque 10 ans.
Oui.
Je pense que 1% des électeurs inscrits, c'est-à-dire aux alentours de 450 000, je crois que c'est un seuil qui me paraît plus raisonnable.
Natacha Polony.
Alors la question de ces modalités de désignation des candidats possibles est absolument passionnante, et il faut relire les débats lors du Conseil des ministres au moment où De Gaulle a discuté de cela, donc en Conseil des ministres, combien on allait mettre où serait la jauge du nombre de parrainages. Et c'était très intéressant puisque, au fait, quand on s'aperçoit qu'il y avait évidemment notamment les libéraux qui étaient pour un nombre bien plus important de parrainages nécessaires. Valéry Giscard d'Estaing, Pompidou même, plaidaient pour 5 000 parrainages. Et De Gaulle leur a dit, mais vous êtes en train de vider de son sens le suffrage universel direct. Vous êtes en train de rétablir des grands électeurs en faisant ça. Et il leur a dit, mais pourquoi avez-vous perdu peuple? Les autres répondent, mais parce qu'il peut y avoir des candidatures folkloriques. Mmh. Et De Gaulle répond, n'ayez pas peur du peuple, le peuple sait très bien ce qui relève d'une véritable candidature. Donc je suis d'accord avec Gilles sur ce point. L'idée des signatures populaires me semble tout à fait juste. En effet, il y a un biais dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, puisque dans la mesure où il a justement un parti installé dont il est le chef unique, et justement c'est un parti, c'est d'ailleurs pas un parti, c'est un mouvement
qui repose
sur le lien organique entre le chef et les ouailles, de façon parfois excessive, et les insoumis me pardonneront de considérer que certains d'entre eux fonctionnent un petit peu comme une secte face à un gourou. Donc il était évident qu'il aurait... il pardonne assez peu de choses. Et pourtant, il y a des gens chez les insoumis qui sont absolument admirables. Mais je crois que on n'a jamais raison quand on veut mener un mouvement politique, de laisser s'installer ce rapport-là et donc avec toute la toute l'irrationalité que cela peut supporter.
Un mot avant
donc,
de passer
donc les 150 000
sujet.
Les 150 000 parrainages, oui. Il était évident qu'il les aurait. Donc il y a là quelque chose qui relève un tout petit peu de l'affichage et de la communication politique.
Avant de passer au sujet suivant, j'aimerais juste votre commentaire sur l'analyse d'Olivier Faure, donc secrétaire, premier secrétaire du PS, quand il dit c'est une excellente nouvelle pour Emmanuel Macron. Il a dû s'ouvrir une bonne bouteille. Il a raison, Gilles Finkelstein.
Cette candidature a une logique. Elle n'est pas inattendue. Il avait dit à l'automne qu'il se déciderait au printemps, qu'il se déciderait à l'automne. Donc, on peut dire que c'est un mauvais coup porté à l'Union de la gauche. Et de ce point de vue-là, que Emmanuel Macron peut ouvrir une bonne bouteille. On peut dire aussi que le refus même de discuter de la possibilité d'un projet et d'une candidature unique traduit une forme d'égotisme et de sectarisme. Moi, je crois qu'il y a aussi une forme de réalisme, que la candidature de Jean-Luc Mélenchon, elle est légitime compte tenu de la spécificité des positions qui sont les siennes. La question, c'est, elle est logique, c'est est-ce qu'elle a un avenir ? Il y a des atouts, il a des atouts très nets, il y a aussi des faiblesses très importantes, et si je devais résumer pour terminer,
d'un mot,
c'est au fond, est-ce que son avenir est celui... C'est son espoir, François Mitterrand, troisième candidature, à plus de 70 ans, le même jour que la déclaration de candidature de François Mitterrand, et ce n'est pas un hasard, ou est-ce que son avenir, c'est François Bayrou, une troisième candidature, mais une candidature de trop, et un affaissement, ça dépendra pour le coup des réponses que le reste de la gauche y apportera.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
Il y a aujourd'hui des policiers et des gendarmes qui sont constamment menacés dans leur vie personnelle. Des appels au viol sur des policières ou des gendarmes qui font des interventions, par exemple. Des policiers qui sont reconnus parce que leur image a été diffusée, où on met l'adresse, le numéro de téléphone, la plaque d'immatriculation. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc je dois protéger ceux qui nous protègent.
Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, hier, qui disait, qu'il affirmait qu'il faudra flouter les visages des policiers et des gendarmes avant de diffuser ces images sur Internet et à la télévision, même si cette mesure n'est pas prévue dans la proposition de loi sur la sécurité qui arrive au Parlement mardi. Natacha Polony, est-ce que vous comprenez cette volonté du ministre de l'Intérieur ?
Je vais vous dire, je trouve que c'est un problème extrêmement complexe. Dans la mesure où il y a de plus en plus de menaces vis-à-vis des policiers, ou plutôt des menaces, je ne sais pas s'il y en a de plus en plus, mais elles sont plus dangereuses dans la mesure où la puissance des réseaux sociaux amplifie ces menaces. Et on sait ce que peuvent faire les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais il y a aussi une nécessité absolue de pouvoir apporter des preuves quand il y a des violences policières, et les violences policières existent. Et le nier est totalement irresponsable. Je crois que nous sommes enferrés dans une situation de défiance entre une partie de la population et la police qui découle des manifestations des Gilets jaunes et de la façon dont le pouvoir politique a utilisé la police comme bouclier parce que, justement, ce pouvoir était incapable de proposer des solutions politiques aux problèmes.
Vous pensez particulièrement au mouvement des Gilets jaunes ?
Oui, je pense au mouvement des Gilets jaunes et aux violences qui ont eu lieu lors des manifestations et qui ont dégradé largement les rapports entre la police et une part de la population. Et le résultat, c'est que nous avons aujourd'hui ces menaces contre des policiers, cette nécessité donc de protéger parfois l'intégrité physique des policiers, et en même temps une loi qui risque d'empêcher la liberté d'informer, parce que les termes sont extrêmement flous, c'est-à-dire que est interdite la diffusion d'une vidéo qui pourrait donc avoir un caractère, enfin dont le but de cette diffusion serait de porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'un policier. C'est-à-dire qu'on a là quelque chose de non défini. D'ailleurs, je ne sais pas si le Conseil constitutionnel va accepter cela. Mais on a là surtout quelque chose qui peut empêcher certaines vidéos de permettre de dénoncer des violences policières. Il y a donc un problème qui doit se régler autrement que par cette loi, je pense.
Un autre problème aussi, c'est l'interdiction de diffuser l'image du visage ou tout autre élément d'identification. Les mots sont importants d'un policier ou d'un gendarme en intervention. Gilles Finkelstein.
Vous l'avez dit, Ali, il s'agit d'une proposition de loi, c'est-à-dire un texte qui est un texte d'origine parlementaire et qui n'a pas encore été discuté en séance à l'Assemblée nationale. Il le sera cette semaine, donc C'est important d'en discuter maintenant parce que le débat va avoir lieu, disons, va se finaliser. D'autant plus que, comme la plupart des textes aujourd'hui, il y a une procédure d'urgence qui a été déclarée et donc le débat va être raccourci. C'est un texte qui prévoit
qui est porté par deux députés LREM, Jean-Michel Fauvergue et Alice Toureau.
Absolument, et qui concerne beaucoup de choses. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'appelle sécurité globale, c'est-à-dire tout le continuum de sécurité de la police municipale, en passant par la police nationale et la sécurité privée. Mais le débat, c'est cristallisé autour de cette question des vidéos, à la fois la vidéo des policiers, c'est-à-dire les policiers qui filment eux-mêmes ce qui se passe. C'était déjà le cas avant. Ça me paraît une bonne idée au sens où ça permet d'apporter d'autres éléments dès lors que, et c'est le même problème pour les vidéos de policiers, dès lors que les termes de la loi sont suffisamment précis, et c'est la grande difficulté devant laquelle on est, c'est que les termes de la loi sont souvent imprécis, et il faudrait pas que l'objet de cette loi, ça soit l'interdiction de diffuser des images du visage à des fins malveillantes, mais que l'effet, ça soit l'interdiction de filmer les policiers.
Midi et demi, France Inter, le grand face-à-face continue avec tout de suite le débat.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
Et si nous vivions désormais dans la démocratie des crédules, c'est le titre d'un livre passionnant que publiait notre invité il y a quelques années. Comment expliquer la place, l'importance des théories du complot dans nos sociétés, particulièrement en ces jours où on est à la fin d'une semaine avec l'espoir d'un vaccin contre le Covid qui commençait à se préciser et où simultanément se propageait parallèlement un autre virus, celui du complot, avec des théories parfois délirantes qui se sont diffusées très rapidement sur les réseaux sociaux, où l'on a croisé pêle-mêle Bill Gates, la 5G, les Big Pharma. Et un autre signe, le succès incroyable du documentaire Hold Up qui cartonne sur les plateformes depuis sa sortie mercredi.
Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il n'y a pas d'impératif plus grand à l'intérieur de leur champ de conscience.
C'est n'importe quoi. Tout ça pour faire peur aux gens, pour leur dire restez chez vous, lorsque vous allez au boulot, mettez un masque et attendez gentiment qu'on vous donne un vaccin pour vous sauver. Ça s'appelle de la manipulation.
Dès qu'un dirigeant utilise des métaphores guerrières, ça devrait vraiment nous mettre la puce à l'oreille, parce que c'est systématiquement annonciateur d'un abus d'autorité. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de mortalité, on parle des cas, mais des cas, c'est pas des gens malades. Une épidémie sans malades, ça n'existe pas, ou en tout cas, c'est un scoop, c'est une nouveauté.
Extrait dans la bande-annonce de Hold Up, ce film de près de 3 heures qui dénonce l'alliance des politiques, des médias, des pouvoirs économiques pour nous asservir, nous citoyens, qui profiteraient de la crise du Covid-19 pour nous instrumentaliser et nous placer sous leur domination. Notre invité est l'un des meilleurs spécialistes de ces questions de croyances collectives. Bonjour Gérald Bronner.
Bonjour.
Sociologue, professeur à l'Université Paris Diderot, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale de médecine. Votre dernier livre, Cabinet de curiosité, vient d'être réédité aux Presses d'Université de France et on va en parler. Vous avez vu Hold Up ?
Oui, je l'ai vu hier.
Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pas un travail de critique cinéma que je vous demande, mais qu'en avez-vous pensé ?
Bon, d'abord, il y a deux choses différentes. Premièrement, en tant que citoyen, j'ai trouvé que c'était consternant, évidemment. C'est indubitablement un documentaire, on pourrait presque dire un documenteur d'ailleurs, conspirationniste. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, on en retrouve toutes les grandes thèses. Et comme sociologue, j'ai trouvé que c'était très intéressant, comme sociologue des croyances, parce que ce documentaire constitue en quelque sorte un produit de synthèse entre un certain nombre d'éléments épars. Il y a une donnée très, très récurrente et très solide des études sur le conspirationnisme, et qui est un peu inquiétante, qui montre que, en général, quand vous adhérez à une théorie du complot, par exemple, je sais pas, c'est la CIA qui a fomenté les attentats du 11 septembre, vous finissez, au bout d'un certain temps, à adhérer à toutes les théories du complot. C'est comme si, en quelque sorte, si vous me permettez la métaphore, il y avait quelque chose de métastatique, c'est-à-dire une prolifération de cette thématique, et c'est exactement ce que montre ce produit de synthèse, ce documentaire dont plein de gens parlent, en effet, que certains approuvent d'ailleurs, y compris parmi les grandes personnalités de notre monde médiatique. Je pense à Sophie Marceau, qui est quand même faut le rappeler, l'actrice, la personnalité publique féminine la plus aimée des Français. Donc c'est un soutien qui est quand même extrêmement, extrêmement étonnant et inquiétant. Et donc il y a là, dans ce documentaire, une puissance narrative. C'est en ce sens qu'il est un peu inquiétant. Il annonce, en quelque sorte, ce que l'on voyait, ce que les observateurs voient depuis de nombreuses années, une coalition de thématiques, une narration qui est à peu près cohérente et surtout un certain nombre d'acteurs qui s'organisent maintenant, y compris en association, parce qu'un certain nombre de personnes qu'on voit là dans le documentaire ont aussi fondé des associations, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer des mouvements sociaux derrière, ils cherchent à créer pourquoi pas un mouvement politique. Donc là, il y a une narration qui est prête, mais pour le moment, en France en tout cas, il n'y a pas d'incarnation politique. Oui. C'est ce qui me ferait dire que nous ne sommes pas en France encore dans la démocratie des crédules, pour faire référence à votre introduction. Mais cette démocratie des crédules, elle a pu prendre un peu le pouvoir dans certains pays, et notamment je pense aux États-Unis, avec un Donald Trump qui a remis, on le sait bien, en question systématiquement un certain nombre de consensus scientifiques sur le réchauffement climatique, sur l'action de l'homme sur ce réchauffement, sur la vaccination, etc. Et qui était soutenu lui-même par des socles de groupes conspirationnistes, comme le groupe Canon, par exemple.
On va y venir, justement. Et on va venir à la question des vaccins et à de ces mouvements anti-vax, comme on les qualifie. Mais d'abord, sur ces phénomènes qui se développent, notamment sur les plateformes et sur les réseaux, Gilles, puis Natacha Polony.
Oui, la question que je voudrais vous poser, Gérald Brunner, c'est, vous venez de dire, on sait qu'on part d'une théorie pour finir, par, au bout d'un certain temps, par adhérer à la plupart des théories. Est-ce que pour prendre la bonne mesure de ce phénomène, est-ce que c'est excessif de dire qu'il s'agit en réalité d'une nouvelle idéologie ? Non pas au sens d'une idéologie au sens classique où il y a un essai théorique, un système philosophique, un parti politique ou même un groupe cohérent, mais au sens où, comme une idéologie, il y a une simplicité, au sens où il y a une vision du monde qui est partagé, tout est corruption, tout est mensonge, tout est dissimulation, où il y a une globalité, c'est-à-dire que tout événement est lu à l'aune du complotisme, et où il y a une infaillibilité, c'est-à-dire que toute récusation est considérée comme une confirmation. Et nouvelle idéologie, parce que c'est une idéologie qui est très adaptée à l'ère du numérique, on parlait des plateformes. Est-ce que c'est ça pour prendre la bonne mesure de ce phénomène, est-ce que c'est ce à quoi nous assistons?
Oui, Gérald Brunner, et je signale d'ailleurs que dans le film, par exemple, on prétend que c'est l'Institut Pasteur qui a créé le virus du Covid.
Oui, alors il y a dans le film plusieurs grands méchants. Hein, c'est ce qui fait un peu l'incohérence du film. En fait, le film fait une proposition arborescente. Et certaines de ces propositions sont incompatibles entre elles, mais qu'à cela ne tienne. Ça, c'est une des caractéristiques du conspirationnisme, c'est-à-dire une forme d'illogisme implicite dans la démonstration, mais qui passe relativement inaperçue. Oui, je crois que, Gilles, vous avez tout à fait raison. En fait, ce que vous venez de décrire caractérise en fait tous les systèmes de croyance. En réalité, les systèmes de croyance proposent une lecture du monde, donc les idéologies en font évidemment partie. Le conspirationnisme a toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est à la fois mythogénétique, il explique la création des choses, il est aussi sotériologique, c'est-à-dire que il explique comment nous pouvons regagner en fait une forme de pureté. Dans le film, c'est tout à fait remarquable aussi ce qui est dit. Il dit en fait, le virus a été créé pour tuer, pour être mortel, mais heureusement, la nature bienveillante nous a sauvés en quelque sorte, hein, et elle a affaibli le virus. Donc là, on a tout à fait un récit manichéen avec des forces du bien, du mal, l'Institut Pasteur, les grands possédants de ce monde qui veulent faire reset, qui veulent remettre le monde à plat, etc., etc. On a donc tout à fait un discours mythologique. Je dirais que la seule différence, peut-être, c'est que généralement, l'idéologie a d'abord un corpus cohérent de propositions pour lire le monde. Elle cherche à plier le monde à ce qu'elle considère comme vrai et bien. N'est-ce pas ? C'est une façon pas très honnête d'avoir un rapport à la réalité, tandis que dans le conspirationnisme, c'est ce que j'essayais de décrire un peu dans mon introduction, cette cohérence n'est venue que ex post, c'est-à-dire ensuite. On avait des groupes qui étaient totalement incohérents, qui croyaient à des petites choses. Certains étaient spécialisés sur les antennes, d'autres sur les vaccins, d'autres, que sais-je, sur des attentats sous faux drapeaux. Et on voit tout ça est en train de se coaliser dans une force et on en voit plein de symptômes. Il y a plein de propositions dans l'espace public aujourd'hui qui essayent de faire en quelque sorte un pont populiste souvent. Ce que je constate pour l'instant, et avec un peu de crainte évidemment, c'est qu'il n'y a pas, non pas de regret, hein, mais bel et bien de crainte, qu'il n'y a pas encore une fois de débouché véritablement social ou politique à ces mouvements. Et je ne saurais dire aujourd'hui si cela va advenir ou pas.
D'ailleurs, quand on regarde une autre vidéo qui n'a rien à voir avec Hold Up, une vidéo devenue virale cette semaine sur les réseaux avec plusieurs centaines de milliers de vues en quelques jours, une vidéo où l'on raconte qu'on va nous injecter des nanoparticules avec le vaccin et des nanoparticules qui pourront nous tuer à distance via la 5G, que Bill Gates serait derrière tout ce projet. Ce sont des arguments délirants qui sont dits avec énormément de sérieux par un homme, Christian Thalschaller, qui est médecin suisse, qui est reconverti dans l'urinothérapie et le chamanisme entre autres. Ça connaît un succès absolument considérable et ça ne concerne pas qu'un petit groupe, qu'un petit quota d'hurluberlu, Gérald Bronner.
Ben oui, c'est ça le problème. Ça continuerait à intéresser le sociologue que je suis, même s'ils étaient très minoritaires. J'ai d'ailleurs commencé dans ma profession à m'intéresser à des choses qui n'intéressaient pas grand monde. Et puis, tout à coup, ces questions ont surgi dans l'espace public. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui sur oui. votre antenne. On n'a pas l'antidote, non, parce que elle est logée au cœur du cerveau humain. Et je rappelle sans cesse, le cerveau humain, c'est quand même l'objet le plus complexe de l'univers connu. 1 milliard de connexions dans une boîte crânienne. On s'en défait pas comme ça si facilement. Et le problème, c'est que ce n'est pas sans incidence. Vous avez raison. Prenons la question des vaccins qu'on a mentionné. Une étude récente d'Ipsos qui compare 15 pays dans le monde en août et en octobre montre que la volonté de se faire vacciner, si toutefois nous avions la chance d'avoir un vaccin, elle tente à diminuer dans un certain nombre de pays, y compris dans le nôtre. Et même, on est les champions sur les 15 pays étudiés, puisque je crois qu'il y a 54% seulement des Français qui accepteraient de se vacciner si toutefois, par bonheur, un vaccin surgissait. Donc c'est pas sans conséquence, évidemment.
Moins nombreux, par exemple, qu'aux États-Unis, où ils sont 64% et très très loin derrière l'Inde,
la Chine, par exemple,
et d'autres. Oui. Natacha Polony.
Je crois qu'en fait, nous sommes confrontés à un problème majeur que ce documentaire Hold Up résume et auquel il va falloir répondre parce qu'il y a urgence. C'est-à-dire que le succès de ce documentaire nous raconte la fracture entre des gens comme nous qui sommes en train de débattre sur le complotisme et qui parlons en général à des gens qui sont d'accord avec nous. Mais à aucun moment, le discours que nous sommes en train de tenir là ne va atteindre ceux qui sont atteints par ce documentaire Hold Up. Et tout le problème politique est là. Comment fait-on pour pouvoir débattre ensemble alors que les points de vue sont en train de diverger de façon dramatique? Mais surtout, ce que nous apprend ce documentaire, c'est là où c'est très intéressant, premièrement, c'est que on voit au début du documentaire un montage sur la question des masques et la parole donc d'Olivier Véran, d'Emmanuel Macron, de Sibeth Ndiaye sur les masques. C'est-à-dire qu'on comprend qu'un mensonge des pouvoirs publics déroule le tapis rouge à tout le reste. C'est-à-dire qu'une fois que ce truc est posé, n'importe quoi peut être raconté dans ce documentaire. De toute façon, on part du principe que la puissance publique ment et manipule. C'est absolument catastrophique. Et derrière ça, en effet, Gérald Bronner l'a dit, il y a des incohérences majeures dans ce documentaire, puisque des propositions contradictoires sont tenues sur le but final de ce virus qui serait, d'après Monique Pinson-Charlot par exemple, d'éradiquer 3 milliards 900 millions d'êtres humains, alors même que, en effet, ce virus, on nous explique au début du documentaire que c'est faux et qu'il ne tue pas, et d'ailleurs c'est scandaleux d'obliger les gens à porter des masques et ça les fait souffrir.
Ouais.
Donc les incohérences sont là. Le problème est que ça s'appuie sur, par moment, des interrogations légitimes. Et d'ailleurs, une grande part des intervenants n'adhèrent pas, en fait, aux théories complotistes du documentaire, mais disent des choses, se posent des questions qui peuvent être légitimes pour certaines.
Alors justement,
Je prends un exemple, Natacha. Qui me semble essentiel. À un moment donné, le documentaire évoque le fait qu'il y aurait, de la part de ces puissants du monde, une volonté d'imposer les crypto-monnaies. Terme faux, puisque, en fait, la vraie question, c'est qu'il y a aujourd'hui un mouvement pour imposer petit à petit des monnaies virtuelles, ce qui n'est pas la même chose que des crypto-monnaies. Mais crypto-monnaies, ça fait peur, c'est caché, c'est... Voilà, en fait, la question de la disparition de l'argent liquide est une question politique qui se pose. À Marianne, on a fait des articles dessus. Sauf que quand on a fait des articles dessus, qui étaient des analyses extrêmement raisonnables, à un moment donné, on m'a dit « Ah mais vous êtes complotiste ». C'est-à-dire que si on interdit des questionnements politiques sur des mouvements de fonds, là aussi, on déroule un tapis rouge aux théories délirantes.
Alors justement,
telles
Natacha,
qu'elles sont véhiculées dans ce documentaire.
Parce que Natacha dit beaucoup de choses, Gérald Bronner. Oui. J'aimerais d'abord que vous partiez effectivement de cette analyse qu'elle fait de la responsabilité éventuelle des responsables politiques, de ceux qui portent la parole publique. Elle citait Olivier Véran, elle a cité Sibeth Ndiaye, et c'est pas si loin que de ce que disait François Hollande sur notre antenne cette semaine dans la matinale, où il disait effectivement qu'on a une forme de responsabilité lorsque on communique pas bien. Alors, il n'allait pas jusqu'au mensonge, mais lorsque les gouvernants ne communiquent pas bien, on peut laisser ouverte la porte à ces théories les plus folles.
Non, mais c'est évident que c'est un carburant, si je puis dire, pour l'interprétation malveillante, que de mal communiquer, voire de mentir. Le mensonge politique, ça existe, et tous les gouvernements, à mon avis, s'en sont rendus coupables dans les dernières décennies. Je pense qu'aucune personne raisonnable ne cherche à nier cela. Mais c'est un des carburants...
Mais ils ont une part de responsabilité.
Mais nous avons tous sans doute une part de responsabilité. Mais une fois qu'on a dit cela, n'est-ce pas, le fait d'avoir une variable causale qui explique quelque chose qui est éminemment multicausal, si on focalise son attention là-dessus, on a vite fait de tomber dans un récit qui inverse le rôle de la victime et de l'offenseur, en quelque sorte. Donc il faut être attentif au fait de reconnaître cela, mais partout. Par exemple, la question de la transparence, quand on veut justement faire la transparence sur toutes nos actions, eh bien on sait que la transparence, malheureusement, parce qu'elle est, je l'approuve, les idées de transparence, je les approuve tout à fait. Pourquoi ne saurions-nous pas alors que d'autres sauraient ? Il n'y a aucune raison en démocratie. Mais cela ne provoque pas toujours les effets qu'on en attend, c'est-à-dire la réconciliation. Donc je l'approuve du point de vue des principes, mais du point de vue des conséquences, je crois qu'il y a une grande naïveté à croire que faire toujours plus de transparence aboutit nécessairement, mécaniquement, à de la réconciliation. C'est pas ça qu'on observe. Peut-être plus tard, on verra. Et sur le
oui, point... quand Natacha parle de son travail de journaliste, il y a l'examen, le scepticisme, le doute légitime lorsqu'on enquête sur un phénomène, un fait social. Et où commence, pour le coup, la théorie du complot, ou quand est-ce qu'on bascule dans la conspiration?
Mais alors, justement, je voudrais dire à madame Polony, qui sera, j'espère, d'accord avec moi, qu'en fait, le conspirationnisme ne porte pas sur l'objet de la croyance. C'est pas parce que vous pensez qu'il y a un complot que vous êtes conspirationniste. Ce qui définit un complot, parce que des complots, ça existe.
Oui.
Ce qui définit un conspirationniste, et on le voit très bien, malheureusement, de façon, je dirais, consternante dans ce documentaire, c'est les modes d'administration de la preuve. Un journaliste qui soupçonne qu'il y a un complot, par exemple, ça ne fait pas de lui un conspirationniste. Ce qui va faire éventuellement de lui un conspirationniste, parce que le journaliste ne protège pas du conspirationnisme, hein, c'est pas un statut d'immunité. Et ce qui va faire de lui éventuellement un conspirationniste, c'est les méthodes d'administration de la preuve qu'il va utiliser. L'insinuation, deux événements qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Vous savez, les dessins qu'on faisait dans les cahiers de vacances avec des numéros, avec des pointillés. En fait, c'est ça le conspirationnisme. On va utiliser un certain nombre de points et on vous laisse tracer les lignes pour inventer un récit, et on le voit d'ailleurs dans ce documentaire, dans toutes les théories du complot, la caractéristique, c'est que ce sont des effets de dévoilement. Et c'est pour ça que c'est convaincant. C'est tout à coup, on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr. Ce que propose le conspirationniste, c'est de trouver une cohérence à des éléments qui sont disparates et qui apparemment n'en avaient pas.
Gilles, quand Natacha disait « ceux qui nous écoutent ne sont sans doute pas conspirationnistes, on n'en sait rien », vous aviez mené une étude sur les personnes qui croient aux théories du complot, notamment autour des vaccins, et vous aviez constaté que c'était souvent des gens jeunes et que le niveau de diplôme n'était pas forcément le critère déterminant en dernière instance.
Alors c'est un critère important, les sympathies partisanes sont un critère très important, et l'âge est un critère très important, les sympathies partisanes. En gros, les sympathisants du Rassemblement National et de la France Insoumise sont plus poreux aux théories du complot que les autres, et surtout les jeunes, par rapport aux plus vieux, sont beaucoup plus poreux. Je dis quand même d'un mot sur la question des vaccins, le fait de ne pas vouloir se faire vacciner, là-dedans il y a un certain nombre de théories du complot. Dans l'enquête qu'on a faite sur les fractures françaises, dont on a parlé à plusieurs reprises au mois de septembre dernier, on avait posé des questions. Là-dessus, quand vous interrogez les Français sur les raisons pour lesquelles ils ne voudraient pas se faire vacciner, ou en tout cas pas immédiatement, il y a un certain nombre de réponses qui, je crois, ne relèvent pas de la théorie du complot. Disons, on n'a pas suffisamment de recul sur le vaccin, qui est un argument qui peut s'entendre. Mais la question que je voudrais vous poser, en fait, est à la fois très simple et très compliquée, c'est sur quel terrain mener le combat contre le complotisme. Vous dites, c'est très compliqué parce que le cerveau est la chose la plus sophistiquée qui soit. Alors on peut dire, comme d'habitude, comme toujours, l'école, mais au-delà de l'école.
Quand on dit l'école, vous dites le niveau baisse, donc les gens seraient peut-être plus sensibles à des théories qui ne sont pas fondées scientifiquement.
Non, qu'il y a un travail d'analyse des faits, d'analyse de comprendre les raisonnements scientifiques à mener. Mais au-delà de ça, est-ce que c'est sur le terrain juridique? Vous citiez l'Institut Pasteur. C'est sur le terrain juridique que l'Institut Pasteur a contre-attaqué et qu'il
a porté plainte,
condamné et qu'il a obtenu réparation, mais il l'a fait plus tard. Et il l'a fait de manière limitée. Est-ce que c'est sur le terrain juridique? Est-ce que c'est sur le terrain médiatique? On a vu se développer, y compris sur ce documentaire-là, des fact-checkers.
Libération, Le Monde, France Inter.
Hier soir, le journal le 20h de TF1 sur ce documentaire. Donc, est-ce que c'est ça la réponse, ou est-ce que, en réalité, ça ne sert à rien parce qu'on parle qu'à des gens qui sont convaincus, ou est-ce que c'est sur le terrain numérique, c'est-à-dire qu'il faut mener la guérilla sur le terrain numérique lui-même?
Gérald Bronner.
Mais en fait, d'abord oui, il faut rappeler ce que disait Natacha Polony tout à l'heure, qu'en effet, parler à un convaincu, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est presque peine perdue. Parce que généralement, quand vous lui apportez des contre-arguments, y compris factuels, le croyant va renforcer ses croyances. Ça aussi, c'est une donnée très solide des études sur la question. Ce qui veut pas dire qu'il faut abandonner le terrain. Alors, que faire? Ben, vous l'avez dit, c'est une guérilla. C'est-à-dire que là, je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer. C'est vrai que je le dis depuis quelques années, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ce que je dis résonne comme un peu moins baroque, quoi. On voit bien.
Oui,
que,
ou un peu moins marginal.
Voilà, c'est un peu moins marginal. Je pense que c'est une des grandes questions de civilisation qui se pose à nous. Ce qui est en train de nous arriver, c'est absolument passionnant. C'est une conséquence émergente de ce que j'appelle la dérégulation du marché de l'information. Je ne veux pas rentrer ici dans les détails. J'essaie d'expliquer ça dans mes livres. Et qui donc fait apparaître des propositions intellectuelles. C'est ça le drame et ce qu'il y a de plus inquiétant dans notre époque contemporaine. C'est que contrairement à ce que croyaient les fondateurs, par exemple, de la démocratie américaine, la vérité ne se défend pas toute seule. On imaginait que sur un marché libre des idées, en concurrence, à moins il y a un terme, finalement c'est le vrai, le plus rationnel qui finirait par l'emporter. Or, c'est pas du tout ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que le faux se développe 6 fois plus vite que le vrai. Par exemple, c'est dans un article de Science en 2018 sur le réseau Twitter. Plus vite, plus loin, plus profond, plus retweeté, mieux mémorisé, montrent des chercheurs belges. Donc en fait, le faux part avec des avantages concurrentiels extrêmement important sur ce que j'appelle le marché cognitif, c'est-à-dire le marché des idées. Donc cette bataille, elle doit avoir lieu partout. Et justement, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas oublier que l'émission que nous sommes en train de faire, elle est écoutée peut-être par des conspirationnistes qui vont m'insulter,
probablement
insulter. Elle est écoutée par des gens qui pensent comme nous et qui vont applaudir. Et puis elle est écoutée aussi par une part d'indécis qui ne savent pas que penser. Et c'est pour ces gens-là qu'il faut continuer à lui aller dans la tranchée pour filer la métaphore guerrière.
Qu'est-ce que le paradoxe de Kruger, Gérald Bronner?
Alors, de Dunning-Kruger, sans doute vous voulez dire. Oui, alors l'effet Dunning-Kruger, c'est intéressant parce qu'on l'a observé beaucoup pendant la pandémie, on l'observe aussi aujourd'hui. C'est l'impression, tout simplement, que l'on peut avoir, y compris moi qui vous parle, d'être plus compétent que ce que l'on est. Quand on a consulté quelques articles, par exemple, sur la Covid-19, vous avez vu qu'il y a une épidémie d'épidémiologistes, quoi, qui sont apparus sur les réseaux sociaux. Donc, il faut pas trop se moquer parce qu'en même temps, on en fait tous un peu partie. On peut tous facilement tomber dans ce piège. C'est un niveau. On est tellement incompétent qu'on n'a pas encore assez de compétences pour se rendre compte de son incompétence. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle en fait la montagne de la bêtise. Et puis ensuite, si on continue à lire des articles, à se former, ce qu'on appelle la vallée de l'humilité. C'est-à-dire qu'on se rend compte tout à coup, aïe aïe aïe, mais il y a 2-3 mois, en fait, je me croyais très compétent. Et alors le paradoxe, c'est que ça crée une asymétrie de prise de parole. C'est-à-dire quand vous vous croyez très compétent que vous ne l'êtes pas, ben vous avez tendance à faire des posts Facebook en insultant éventuellement les autres, en apportant la vérité, en dénonçant moralement. Et puis quand tout à coup vous apercevez que vous êtes un peu plus compétent, vous avez tendance à un peu plus garder le silence.
Natacha Polony.
Est-ce que vous ne pensez pas que la seule réponse au point où on en est, c'est-à-dire à un moment qui, je pense, est un moment de crise, est une réponse politique? C'est-à-dire que pendant des années, on a réduit le débat politique en y insufflant quelque chose qui relevait de l'ordre du bien et du mal. C'est-à-dire que certaines questions étaient considérées comme ne devant pas être posées parce que elles n'étaient pas valides, parce qu'elles n'étaient pas acceptables. Des remises en cause de systèmes économiques, des remises en cause de, je ne sais pas moi, du libre-échange, du protectionnisme, de tout ce qu'on veut. Voilà. Et tout cela aboutit au fait que le débat se passe ailleurs. Quand vous avez un véritable débat démocratique, notamment avec des instances politiques démocratiques, vous limitez le fait que le débat parte ailleurs, dans des endroits qui ne sont pas maîtrisables.
Gérald Bronner.
Oui, alors, bien sûr, d'abord, je ne vois pas pourquoi il y a des questions qui ne pourraient pas être posées, sauf quand la science a définitivement tranché une question, par exemple. Des questions sur lesquelles on ne va pas revenir, l'existence de chambres à gaz, par exemple, non.
D'abord, c'est non, mais la Terre est plate. La Terre est plate, Gérald Bronner. Sans même aller jusqu'au négationnisme, la Terre est plate.
Oui, la Terre est plate, c'est une question qui n'est pas interdite de poser dans l'espace public, mais enfin, reconnaissez qu'on ne va pas convertir un certain nombre de nos chercheurs, notamment quand ils sont payés avec l'argent public, pour démontrer que la Terre est ronde. Je crois que ça a été relativement bien démontré. Ceci dit, en effet, le resurgissement de la Terre plate, vous savez, c'est très étonnant parce que maintenant, il y a une société de la Terre plate et ils aiment à dire qu'ils ont des membres tout autour de la Terre. Enfin, je vous laisse réfléchir à cette phrase.
Natacha.
Oui, mais juste, moi, je ne parlais pas de questions scientifiques, justement, parce que ce qui se joue dans ce documentaire, ce sont pas seulement des questions scientifiques, en fait, ce sont des questions politiques sur l'organisation du système économique. C'est ça qui est derrière. Et là, y a-t-il suffisamment de débats démocratiques ?
Gérald Bronner. Écoutez, il y a une des, je suis peut-être pas le plus compétent pour répondre à ce point, mais ce que je sais, c'est qu'un certain nombre d'acteurs qui peuvent largement communiquer, débattre, mais qui sont minoritaires, ont tendance à utiliser la stratégie de dire qu'on ne les laisse pas parler. Moi, je ne vois pas où, dans l'espace public, il serait interdit de remettre en question, et certainement pas sur l'antenne, par exemple, de France Inter, où j'entends souvent des collègues remettre en question le capitalisme, la société libérale, etc. Ça me semble tout à fait de bon aloi. On est dans un espace démocratique. Je ne la vois pas, cette censure que vous évoquez.
Gilles.
Alors, Gérald Bonner, vous disiez il y a quelques instants que le faux est 6 fois plus diffusé que le vrai.
Sur Twitter, oui.
Sur Twitter. Donc, ma question justement porte sur les réseaux sociaux et les plateformes. Tout leur business model est construit sur le déclenchement d'émotions et d'émotions fortes qui permettent de garder l'attention et qui permettent de liker, de diffuser et donc de créer du circuit. Et beaucoup part du renforcement de nos biais. Puisque plus on clique sur un lien, plus on est exposé à ce type de contenu, et plus on est exposé à un type de contenu, et plus on le regarde. Hein, on sait par exemple que 70% des vidéos que vous regardez sur YouTube sont des suggestions de la plateforme elle-même et pas, des choix que vous faites. Et donc, est-ce qu'il y a une manière de responsabiliser les plateformes? Et question plus précise, puisqu'on reparle de ce documentaire Hold Up, dans les plateformes de participation, de financement participatif, on voit les interrogations qui se sont faites jour depuis la diffusion de ce documentaire. Donc, est-ce qu'il y a un mode possible de responsabilisation des plateformes?
Oui, c'est un des autres fronts que vous évoquiez tout à l'heure, parce qu'on parlait de bataille. Un des fronts très importants, c'est la négociation en effet avec ces grands opérateurs du net qui se servent, on le sait, d'outils qu'on appelle par exemple le dark pattern, c'est-à-dire qu'on va utiliser un certain nombre de résultats de neurosciences pour créer, pour surfer, on va dire, sur les addictions naturelles du cerveau. Quand vous regardez, je sais pas, une série sur Netflix, vous voyez bien qu'à la fin de l'épisode, on enchaîne immédiatement sur un autre pour créer une attente, une volonté de regarder un deuxième épisode. Tout cela, en quelque sorte, est de bonne guerre. C'est leur business model. Mais cependant, c'est une question d'intérêt général, d'intérêt public. Ce sont des questions politiques.
Oui, est-ce que c'est le rôle d'une plateforme comme Twitter, par exemple, non pas de censurer, mais d'alerter quand le président américain Donald Trump tweet quelque chose
ils le font mal, je dois dire, mais ils le font quand même. Et en l'occurrence, effectivement, on peut, pour faire l'avocat du diable, dire qu'ils ont hérité d'une responsabilité dont ils ne voulaient pas au départ, mais il se trouve qu'ils ont la responsabilité de le faire. Le seul problème, c'est que ce sont des puissances internationales, qui ne sont en effet, et ça c'est dit dans le documentaire, vous voyez, c'est un point avec lequel je suis d'accord dans le documentaire, sont des puissances internationales dans le sens où elles peuvent émettre de l'information, elles peuvent éditorialiser surtout notre représentation du monde un peu partout où elles sont enracinées, et elles ne sont élues par personne, elles n'ont aucune légitimité politique. Et d'ailleurs, c'est la seule question, puisqu'on ne pouvait pas parler beaucoup chacun d'entre nous dans le débat présidentiel, vous vous rappelez, le grand débat national avec les intellectuels, j'avais posé une seule question pour aller
vous étiez tous les deux, Gilles et vous, à l'Élysée, par exemple,
absolument,
pour débattre, ou plutôt écouter le président de la République.
Nous étions une soixantaine. Et la seule question que j'ai posée, au président de la République, c'était la suivante. C'est-à-dire, quand est-ce que vous allez prendre langue avec les GAFAM et organiser éventuellement un bras de fer? C'est peut-être un peu combattant de le dire comme ça, mais en tout cas, un rapport de force, oui, une négociation pour leur faire prendre en compte le fait qu'ils utilisent l'information et que l'information, c'est un bien public. Et donc, il y a une charge politique dans cette façon d'éditorialiser le monde. Je sais que certaines plateformes font des efforts. Facebook, ils essayent tous de faire des efforts pour sauver leur réputation. Hein. C'est pas forcément...
Enfin, sauver leur business avant leur réputation.
C'est-à-dire sauver leur business, c'est sauver leur réputation. Ça va de pair, quoi, justement. Mais il semble que ça soit très, très insuffisant.
C'est pas forcément enthousiasmant, mais on va devoir en rester là. L'émission se termine. Gérald Bronner, est-ce que le Père Noël est une ordure?
Le Père Noël
J'ai
est une ordure.
J'ai vu ça sur les réseaux.
Alors, je sais pas si le Père Noël est une ordure.
Est-ce qu'il y a un complot contre le Père Noël?
Mais s'il y a des enfants qui nous écoutent, je vous inciterai, Ali, à ne pas trop évoquer cette question. Oui.
Voilà. Merci Gérald Bronner d'avoir été notre invité. Je rappelle le cabinet de curiosité sociale au PUF, Natacha et Gilles. Merci à tous les deux et à samedi prochain. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé l'émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Henri Bérec. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour questions politiques à suivre sur Inter. Les secrets d'info de Jacques Monin. Thème aujourd'hui L214. Quels sont les intérêts en jeu au-delà des violences chocs et des vidéos chocs? Tout de suite le journal.